Hey, bon dimanche, ça va bien?
Oui.
En ce 15 novembre ensoleillé. C'est bien, gloire à Dieu. On va faire une lecture dans 1 Corinthiens 13, 13. C'est facile à se rappeler cette référence, 1 Corinthiens 13, 13, n'est-ce pas? C'est Paul qui dit maintenant, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Jésus, je te prie que mes frères et sœurs saisissent l'importance de ce que je vais dire ce matin, afin qu'ils ne soient pas comme les gens de ce monde qui sont dans la désespérance. Merci Jésus. Amen. Martin Luther a dit une chose remarquable, mais malheureusement, bon, c'est un peu passé à l'as. Vous savez, il a dit beaucoup de choses, hein. Il y a des livres, énormément de livres. Il y en a même un qui s'appelle « Les propos de table » que je vous recommande, qui a été réédité. Il faut savoir que Martin Luther vivait en communauté avec des disciples qu'il enseignait. Et puis, quand il était à table, il y avait toujours un des disciples qui ne mangeait pas, mais qui écrivait tout ce qui était dit. Alors, on posait, les disciples posaient des questions à Martin Luther, qui répondait, puis des fois, c'était un peu salé. Et c'est très intéressant, c'est très drôle, mais très profond aussi. Un jour, quelqu'un donc lui a demandé, « Que feriez-vous si la fin du monde était pour demain ?» Et il a répondu du tac au tac, « Je planterais quand même un pommier. » Je trouve ça beau, hein ? Je trouve ça beau. L'homme est resté interloqué et il avoua plus tard avoir pensé, mais enfin, à quoi bon? À quoi bon, puisque de toute façon c'est stupide, puisqu'il n'en verra même pas les fruits, puisque c'est la fin du monde. Alors la question que je pose ce matin, c'est quelle sorte de personne êtes-vous? Moi je suis du genre à jouer la carte de la vie. La carte de la vie, c'est la carte qui intègre l'incertitude. Et donc, qui ouvre la porte à toutes sortes de possibles. Ce qui se passe aujourd'hui, avec le Covid, avec le terrorisme, avec la crise financière et toutes ces choses-là, ne doit pas vous empêcher d'avoir de l'espérance et de construire pour l'avenir. Je ne vous parle pas d'espoir, je vous parle d'espérance. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le texte sacré que nous venons de lire parle de trois choses qui demeurent, qui restent. Et le mot espoir, et espoir n'est pas une de ces choses, c'est le mot espérance. Le français, c'est une très belle langue. On a toujours tendance à dire, ah, le grec... Ah, l'hébreu, le latin, gna gna. Le français est une langue magnifique. Et si les théologiens ont choisi de prendre le mot espérance, plutôt qu'espoir, c'est parce qu'il définit ce mot, il définit mieux que le mot espoir ce que l'esprit veut nous dire. L'espoir... C'est le fait d'attendre, de désirer quelque chose de mieux pour soi, pour les autres. L'espoir, ça peut être considéré comme une émotion. L'espérance, c'est autre chose. C'est une confiance pure et désintéressée dans l'avenir. Vous allez comprendre. L'espoir... Il peut être déçu. Ce n'est pas le cas de l'espérance. Parce que l'espoir relève de l'illusion. Alors que l'espérance relève de l'intuition. L'espoir, c'est un excès de confiance. En fait, l'espoir, c'est... aussi réel que la peur, et la peur, c'est vain. Ça ne sert à rien. Oui, ça peut servir à fuir devant un lion. La peur est vaine, peur du lendemain, on ne peut pas le gérer demain, on ne peut pas avoir de l'espoir pour demain. Moi, je suis plein d'espérance, c'est-à-dire d'une confiance profondément ancrée sur du solide, sur l'amour de Jésus pour moi. L'espérance en Christ nous invite à rester constant, à être patient, à être humble. En fait, le mot espérance a la même terminaison que le mot persévérance, le suffixe anse. Les quatre lettres anse, c'est un suffixe. Quand il y a des préfixes, c'est des petites lettres qu'on met avant un mot, puis il y a des suffixes, c'est des petites lettres qu'on met à la fin d'un mot. Qu'est-ce que signifie ce suffixe « anse » ? Ça vient d'abord du latin, et « antia ». Ça signifie que ça marque la propriété, ça marque l'état de celui qui est. Quelqu'un qui est accoutumé, il a une accoutumance. C'est son état. Des alliés ont une alliance. Celui qui est attiré a une attirance. Celui qui espère a de l'espérance. Ce suffixe anse, il marque une qualité, un domaine d'action. Le suffixe anse est dérivé donc du mot latin antia, qui indique le résultat d'une action ou d'un domaine d'action. Pas d'une illusion, pas d'un « Oh, j'ai espoir que ça va aller mieux. » Quelqu'un qui se venge exerce une vengeance, c'est une action. Il est un vengeur, il exerce donc la vengeance. L'espoir, c'est abstrait. L'espérance, c'est un état. C'est l'état de celui qui agit. Est-ce que vous voyez la nuance ? Elle est très importante. Elle est très importante. De nos jours, où les gens souffrent, où les gens ont une souffrance, ils l'ont, la souffrance. C'est leur état. Souffrance sanitaire, souffrance économique, souffrance psychique. Les hôpitaux psychiatriques, on parle des lits de réanimation, on ne parle pas tellement des lits dans les hôpitaux psychiatriques qui sont débordés, ils n'ont plus assez de lits. Rien ne sert d'avoir de l'espoir pendant les jours difficiles que nous vivons. Il nous faut de l'espérance. Cette merveille qui, ajoutée à l'amour et à la foi, fait des miracles. Voilà ce qu'il nous faut. Et je vous invite à cultiver votre espérance. À planter un pommier, même si demain c'est la fin du monde. Choisissez la carte de la vie. Si vous n'avez que de l'espoir, mes pauvres frères et sœurs, vous renoncez à votre puissance d'être. L'espérance, c'est votre être. Ou pas, si vous ne l'avez pas. Si vous n'avez que de l'espoir, vous renoncez à votre puissance de penser, d'agir, parce qu'on agit toujours d'après ce qu'on pense. Si vous avez de l'espoir, vous êtes passif. Et vous allez vous soumettre à l'emprise de l'imagination. Pas bon. Pas bon, pourquoi ? Parce que vous pouvez imaginer des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. L'espoir n'entre pas dans le cadre de la science raisonnable. La science, c'est quelque chose qui doit être raisonnable. Parce que vos espoirs prévoient des choses qui ne sont pas soutenues par des faits. La science, elle veut des faits qui se répètent. La science,
Votre, si vous n'avez que l'espoir, vous n'avez pas des chiffres, vous ne pouvez pas chiffrer, vous ne pouvez pas calculer, vous pouvez pas, vous n'avez pas d'argument, vous avez un espoir. Votre espoir, c'est une utopie. Par contre, votre espérance vous donne d'agir sur des faits, avec des chiffres et des arguments. Je vais vous faire la démonstration. Votre espérance, elle est fondée, elle est ancrée dans l'amour de Dieu. L'espérance nous pousse en avant. Les gens ont de l'espoir. Oh, j'espère que ça va aller mieux. J'espère que je vais gagner au loto. J'espère que ma compagne qui m'a quitté va revenir. J'espère que mon patron qui m'a licencié va changer de la vie. C'est de la foutaise. Pardon. C'est irrationnel. Avec l'espoir, vous êtes dans le déni du réel, tout simplement. Avec une illusion. Le réel, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a annoncé, c'est ce que Dieu a commandé, c'est ce que Dieu a promis. Le réel, c'est la Bible. La Bible, c'est notre livre de prophétie. Par exemple, je vous donne deux exemples au sujet de prophétie biblique. Pour ce qui concerne notre époque, il y a 175 prophéties qui se sont réalisées depuis 1882 à nos jours. Vous savez ça ? Pour ce qui concerne, par exemple, la venue de Jésus dans l'Ancien Testament, la Bible, l'Ancien Testament, contient 365 prophéties qui se sont toutes réalisées. Il y a un mathématicien avec son équipe qui s'appelle Peter Stone qui a écrit un livre qui s'appelle Science Speak en 1963, il est encore, on peut encore acheter, où il dit que la probabilité qu'un homme, Jésus, accomplisse à lui seul ne serait-ce que 48 de ses 365 prophéties, la probabilité. Alors, je ne sais pas dire le chiffre, je ne sais pas dire le nom, je sais pas le nom de ce chiffre. C'est un 1 suivi de 27 zéros. Où est le hasard? Voilà où est basée votre espérance. Sur ce que Dieu dit, pas sur vos illusions. Seigneur, je voudrais que ce Covid s'arrête. Il faudrait prier pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. J'espère vraiment, j'ai de l'espoir que ça va aller mieux. Mais c'est des imbécilités. Sachez ce que Dieu veut. La Sainte Bible est principalement un livre de prophétie. Elle nous annonce ce qui va arriver. Elle ne nous dit pas que ça va aller de mieux en mieux. Pas du tout. Alors pourquoi avoir l'espoir que ça va aller de mieux en mieux ? Les prophéties qui concernent notre temps vont également toutes se réaliser. Toutes, absolument. Déjà, comme je vous ai dit, depuis 1882, il y en a déjà 175 qui se sont réalisées. Voilà où est notre espérance. Pas dans un vague espoir illusoire basé sur des émotions, des... Oh, mais c'est terrible, toute cette souffrance, tous ces malheurs, tous ces gens, mais c'est affreux, tout ça. Une période difficile, c'est anxiogène, c'est horrible. L'espoir, c'est pas logique. Alors que l'espérance, elle est logique. L'espérance du chrétien est un pari logique sur l'avenir que Dieu annonce. Et on est sûr de notre coup. Parce que Dieu n'a jamais menti. Parce que la Bible n'a jamais menti. Parce que le chrétien, quand il sait ce que Dieu va faire, il s'engage de tout son être pour que ce possible qui est annoncé dans la Bible puisse passer au travers de lui, être manifesté en partie par lui aussi.
Le disciple de Jésus, il sort de la passivité, de l'attente, pour rentrer dans la dimension vivifiante, passionnante, qui va faire jaillir l'étincelle dont il a besoin et dont son entourage a besoin. S'il n'y a pas cette lumière prophétique dont on peut être sûr, parce que les chiffres parlent, parce que les chiffres sont là, parce que les réalités sont là, les accomplissements sont là, et le peu qui reste encore, ça va arriver, c'est sûr, puisque le reste est déjà arrivé, c'est scientifiquement prouvé, c'est l'histoire. Pourquoi je me lève le matin alors, si c'est pas vrai? Pourquoi? Il y a beaucoup de gens, ils se resteraient au lit s'ils n'avaient pas besoin de pisser. Pourquoi je me lève le matin si j'ai aucune chance de changer l'ordre des choses ou d'apporter ma pierre à un édifice? Pourquoi ne pas se laisser glisser dans la peur, dans le découragement, dans la détresse? Non! L'espérance en Jésus et en ses promesses sont l'ouverture dans le présent pour que je sache que faire et comment le faire et avec qui le faire. Mon espérance, elle repose sur une réalité que les incroyants méprisent. Mais on s'en fout qu'ils nous méprisent. On s'en fout. Méprisez-nous, messieurs, mesdames. Traitez-nous de sectes, d'escrocs. Dites qu'on est des illuminés. On s'en fout de ce que vous pensez. Mais alors, on s'en fout tellement qu'on s'en fout. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point on s'en fout. J'ai une certitude qui est rationnelle. Mon espérance est en Christ qui n'a jamais menti. Dans la Bible, qui n'a jamais menti. Je ne suis pas démuni d'allant, d'énergie, et je me réinvente. J'ai des convictions basées sur un livre qui n'a jamais menti. Et vous dites, oh mais la Bible elle est pleine de contradictions. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez lu? Ou vous faites que de répéter ce que les ânes gris disent? La Bible, c'est l'antidote au découragement. Elle est le seul rapport possible avec la vie telle qu'elle est. La Bible ne nous raconte pas des fables, des histoires, des machins de genre Blanche-Neige avec sept nains et puis un prince charmant qui vient baver dans la gueule de la Blanche-Neige qui est morte. Et puis, c'est des fables. Et chez les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui croient les fables. La Bible n'est pas un livre de fables. La Bible est le seul rapport possible avec la vie telle qu'elle est, parce qu'elle nous décrit la vie telle qu'elle est, nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes et d'enfants tels qu'ils étaient pour nous donner des exemples afin que nous sachions comment réagir dans certaines circonstances. Et puis elle fait des prophéties, la Bible est surtout un livre de prophéties. C'est enraciné dans notre humanité la plus vraie, la plus authentique. C'est pas du flap, flap, flap. Si j'attends d'avoir toutes les certitudes que le monde prétend m'inoculer par les médias, je ne vais rien faire. Parce que je serai paralysé. Fais-moi confiance. Écoutez les médias se contredire. Alors je vais vous dire un gros mot, je vais vous en dire deux. Attention, face à l'accumulation des conneries et des emmerdes qui découlent de tout ce que les médias nous barrent jour après jour, je comprends que les gens perdent espoir. C'est humain, C'est normal. Mais un disciple de Jésus ne se laisse pas avoir. Parce que sa référence, ce n'est pas les médias, ce n'est pas YouTube. Sa référence, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu, c'est le rocher du disciple sur lequel il est établi. La tempête vient, la pluie tombe, le vent souffle, mais la maison demeure debout parce qu'elle est construite sur quelque chose de solide. Et c'est sur ce rocher que j'ai bâti ma vie, c'est sur ce rocher que j'ai bâti ma famille, et c'est sur ce rocher que j'ai bâti ma communauté. L'amour, la foi et l'espérance. Vous avez l'amour, c'est bien. Vous avez la foi, c'est bien. Foutez en l'air votre espoir et optez pour l'espérance. Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles fortes dans le cœur de mes frères et sœurs pour qu'ils relèvent la tête et qu'ils agissent comme des gens remplis d'amour, de foi et d'espérance dans ce monde de ténèbres, qu'ils brillent comme une lumière là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir.